ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 30 mars 2016. Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour. Ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver, de vous accompagner durant la prochaine heure de votre dîner. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clé CVLD ou @canal_m. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Madame Pierrette Gagné du Centre de référence du Grand Montréal, un organisme qui fête en 2016 son 60e anniversaire. On parlera de leur ligne téléphonique spécialisée Référence Aînée, qui offre depuis peu un service 7 jours sur 7 pour les résidents de la région métropolitaine et de la Montérégie. Elle sera dans nos studios à 12h45. Vous avez peut-être vu passer dans l'actualité ce texte paru dans la section débat de la Presse Plus le 20 mars dernier, intitulé « Des centaines de femmes disparues du marché du travail », où on parle d'un enjeu important, soit que lorsque les soins requis par un enfant lourdement handicapé imposent que l'un des deux parents abandonne son emploi, c'est presque toujours la mère qui cesse de travailler. On s'entretient avec l'auteur du texte et membre du mouvement « Parents jusqu'au bout », Madame Annick Lanouette-Turgeon. En première partie d'émission, on découvre l'organisme L'Arc-en-Ciel qui dessert une clientèle vivant avec une déficience physique ou intellectuelle dans les municipalités de Montmagny-Lillet. Plus particulièrement, on va parler de son volet autisme qui couvre toute la région de Chaudière-Appalaches. On parle avec Madame Renée Hébert, agente d'information et de liaison à L'Arc-en-Ciel. Mais tout d'abord, on continue notre série entamée la semaine dernière sur les camps de vacances. C'est le temps de l'année où les familles planifient leurs activités estivales. Et les colonies de vacances sont depuis longtemps considérées comme une expérience enrichissante pour les jeunes et en même temps des petites vacances pour les parents. Près de Québec, on trouve un camp qui répond aux besoins des personnes en situation de handicap et propose même des séjours toute l'année. Je joins au téléphone M. Denis Savard, directeur général du Centre de vacances Cité-Joie de Beauport. Bonjour M. Savard.
Bonjour.
Donc, on va plonger tout de suite dans le sujet. Depuis quand le Centre de vacances Cité-Joie existe-t-il?
Cité-Joie existe depuis 1962. Grâce à l'idée du père Raymond Bernier, qui était, comment on va dire, un visionnaire du temps, il avait décidé de mettre en place un centre de vacances destiné aux personnes ayant des problématiques de santé intellectuelle, physique et autres types de contraintes. Et depuis, bien, on est en pleine opération.
Et où vous êtes situé? Vous êtes dans la région de Québec?
Exactement. On est situé à Lac-Beauport, qui est une région récréo-touristique. On est en plein cœur de majestueuses montagnes qui font toute la notoriété de Lac-Beauport. Et avec les années, on a réussi à mettre en place sur ce site un ensemble d'installations qui fait que la pratique d'activités récréatives de plein air, sportives et culturelles, sont devenues pour nous des moyens privilégiés pour accueillir les gens.
Et justement, vous avez plusieurs installations qui sont adaptées aux besoins d'une clientèle handicapée.
Exactement. Nous, on a eu la chance avec les années de profiter de toutes les tendances, toutes les nouvelles politiques à l'égard de l'accessibilité entourant la pratique d'activités de loisirs. Et bien sûr, à ça, quand il se développe des politiques, il y a des montants d'argent qui viennent avec. Et du fait qu'on est là depuis 1962, ça fait quand même 54 années, on était en mesure d'adapter le centre en fonction des différentes clientèles, autant des personnes avec une déficience intellectuelle, déficience physique, l'autisme, et d'avoir trois pavillons d'accueil qui, en même temps, s'adressent à des clientèles précise, mais aussi travaille aussi en fonction de l'âge de ses usagers, car la problématique qu'on retrouve, bien, à partir de 14-15 ans, en mode camp de vacances, même pour les camps réguliers, mm-hmm. habituellement, c'est quand là ferme et n'ont plus accès, bien, ne ferme pas, mais n'offre plus l'accès à ces personnes-là. Nous, on a une clientèle qui se situe entre 3 et 80 ans, ce qui veut dire que les gens qui viennent chez nous habituellement sont des gens qui adoptent pour une longue période les services de Cité-Joie.
Mm-hmm, ouais, 3 à 80 ans, c'est quand même une bonne brochette de personnes. Vous accueillez chaque année plus de 2600 personnes, donc des campeurs. On peut voir que c'est non seulement pour les jeunes, mais aussi toutes les familles peuvent en bénéficier. Quels sont les différents types de camps et de séjours que vous offrez?
Regardez, nous, on a au moins 2600, comme vous le disiez, personnes inscrites dans nos dossiers. Ce sont des personnes qui vont venir possiblement une fois, deux fois, trois fois dans l'année, mais qui sont venues au moins une fois au cours des trois dernières années. Cité-Joie fonctionne à partir de deux grands programmes qu'on appelle le programme Maison de répit Cité-Joie, qui, lui, opère de septembre à juin. Dans le mode répit, c'est plus des fins de semaine ou les longs congés ou les périodes du temps des fêtes, la relâche comme on vient de réaliser. Mm-hmm. Et c'est en mode répit, donc on se rapproche d'un service de garde, mais avec un programme d'activité animée. L'autre programme important que nous offrons à notre clientèle, c'est le programme Séjour vacances été, qui lui démarre vers le 19 juin et se termine vers la mi-août, le 19-20 août, et qui est vraiment un programme de camps de vacances à partir des critères que l'ACQ, l'Association des camps du Québec, propose en termes de programme et d'accessibilité à ce type de clientèle-là. Donc, par contre, en volet camp de vacances, bien sûr, c'est l'activité récréative qui prime. Mm-hmm. C'est une programmation avec des thématiques où on, avec les différentes clientèles qu'on a, on adapte les programmes, on ajuste les activités de façon à ce que tout le monde puisse en profiter au maximum.
Comment est-ce que ça fonctionne pour les inscriptions? Est-ce qu'il faut être référé par notre centre de services sociaux ou de santé? Ou on s'inscrit volontairement?
C'est très ouvert au niveau de l'inscription. Plusieurs sont référés par justement les CLSC, les services de santé, les services sociaux, les associations régionales de loisirs qui sont dans différentes localités. Cité-Joie couvre, je vous dirais, l'est du Québec. Là, on trace une ligne de trois rivières, nord-sud, aller jusque en Gaspésie, mais beaucoup de gens proviennent de Montréal, de Gatineau, pour profiter de nos services. Bien sûr, dans l'axe Est-Ouest, ça permet aux familles qui décident de, par exemple, partir de la Gaspésie pour aller passer une fin de semaine à Montréal ou pour prendre des vacances à Toronto, de nous confier la personne dont elle est responsable. Mm-hmm. Mais beaucoup de familles s'inscrivent de façon individuelle parce que ils ont entendu parler de Cité-Joie, parce qu'ils ont visité notre site. C'est très ouvert. La façon pour nous de valider si la personne est belle et bien inscrite et c'est Cité-Joie qui lui convient, bien, c'est lors de l'inscription, les gens communiquent avec nous, notamment lorsque c'est la première fois. Et à ce moment-là, on leur fait parvenir un document qui identifie le profil de l'individu. Et en mode formule camp de vacances, bien sûr, on est en mode pratique d'activité. Donc, il y a certains critères, des fois, qu'on est obligé de mettre en place pour s'assurer que les personnes qui vont être chez nous durant cette période-là seront vraiment en mesure de participer à un programme de camp de vacances, comme je l'ai dit, un peu comme c'est défini par l'Association des camps du Québec.
Mm-hmm. C'est très intéressant. Monsieur Savard, votre camp est parrainé par le Club Rotary de Québec-Est. Depuis quand est-ce que cette association avec Cité-Joie existe-t-elle? Et pour le bénéfice de nos auditeurs, pouvez-vous nous décrire brièvement qu'est-ce que le Club Rotary?
Cette association-là est venue en 62, en même temps que la création de Cité-Joie. Le père Bernier était aumônier du Club Rotary et il a proposé cette... Euh, cet engagement un peu spécial au Club Rotary de Québec-Est. Et les membres de l'époque ont accepté que cette joie devienne l'œuvre principale du Club Rotary. À travers le Club Rotary est composé d'hommes et de femmes d'affaires provenant de différentes professions, entreprises commerciales, industrielles et libérales. Donc, ça fait en sorte que, et on retrouve un représentant ou deux représentants de chacune de ces classifications-là de travail. Donc, le Club Rotary québécois a 60 membres environ, et c'est à partir de cet engagement-là, à partir du potentiel de chacun des membres de leur entreprise, que nous, on est en mesure de compter sur ces gens-là, notamment par leur expertise professionnelle, leur expertise entrepreneuriale, par leurs dons directs via leur compagnie ou les dons en argent qu'ils font. Et à chaque année, le Club Rotary organise deux événements importants, qui s'appelle le dîner Cité-Joie, qui est un dîner gastronomique qui accueille 600 personnes habituellement, et une autre activité en collaboration avec d'autres partenaires qui s'appelle Léo Mardi. C'est une activité sur la scène du Grand Théâtre de Québec qui, en même temps, permet de recueillir des fonds. Vous savez, à Cité-Joie, il y a une politique d'accessibilité qui fait en sorte que l'usager ne paye uniquement 50 % du coût réel des services. Donc, c'est grâce au Club Rotary de Québec-Est qu'on est capable, à travers la population et ses actions de financement, de récupérer une partie de l'autre 50 % qu'on a de besoin pour opérer. Donc, et les membres du Club Rotary, bien sûr, font partie de nos conseils d'administration, sont très présents dans toutes les activités qu'on fait, et apportent selon leur capacité financière ou en fonction du commerce qu'ils administrent de l'aide. Si je pourrais vous dire, quand on fait une visite à des donateurs ici à Cité-Joie, on dit, bon, on est capable de dire, ben la cuisine a été, c'est un don d'un membre du Club Rotary qui est dans le domaine de construction de cuisine. Le mobilier, c'est un don du Hilton Québec, parce qu'on a un membre du club qui est au Hilton Québec. La table de conférence était donnée par un bureau d'avocats parce que, bon, il changeait de mobilier.
On voit vraiment que la communauté s'implique à différents niveaux à Cité-Joie.
Exactement.
En terminant, j'aimerais aborder, M. Savard, justement, cet aspect d'accessibilité financière aux familles. Vous offrez aussi vos installations, des activités à d'autres clientèles que les personnes en situation de handicap, aussi pour aller chercher une autre source de financement pour vous.
Exactement. Nous, on s'est donné à un moment donné, on accueillait tout. Le temps, espace était entièrement consacré à 100% aux personnes handicapées de la région de Québec. Et ce qu'on s'est rendu compte à un moment donné, c'est qu'il y a des périodes de l'année où le temps pour des activités ou le goût pour des activités extérieures est moins propice. Donc, pour utiliser au maximum l'ensemble des ressources qu'on a, on a décidé d'ouvrir à la population dans le cadre de programmes bien spécifiques. On a des programmes ateliers travail-loisirs qu'on offre aux entreprises, notamment les caisses du mouvement des jardins qui viennent faire des rencontres de travail chez nous. On fait des rencontres familiales de fin de semaine parce que les trois pavillons d'accueil qu'on a ne sont pas occupés totalement chacune des fins de semaine. On prête aussi nos bâtiments pour les groupes éducatifs, scouts, jeunettes, guides et cadets qui viennent faire des rencontres de fin de semaine. Et en ce temps-ci, entre autres, on est en pleine période de cabane à sucre parce qu'on a une très belle érablière sur le terrain. Et on a décidé d'ouvrir, de mettre en opération cette érablière-là de façon à aller chercher davantage de revenus. Et tous les revenus générés par les activités qu'on organise qui équivalent à peu près à 25 % du temps espace à Cité-Joie sont entièrement versés au fonds de soutien Cité-Joie pour justement combler l'écart du 50 % que l'on ne charge pas aux vacanciers.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, on peut aller sur citéjoie.com. On va mettre le lien sur la page de notre émission. Monsieur Denis Savard, vous êtes directeur général du Centre de vacances Cité-Joie de Beauport. On vous souhaite une très belle saison 2016.
Bien, je vous remercie beaucoup et en espérant qu'on puisse accueillir le plus grand nombre de vacanciers possible pour permettre aussi aux parents un petit moment de répit durant l'été.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Je reviens.
Montréal XO de Laurence Narbonne, qui est l'ex-Hôtel Morphée, donc une chanteuse qu'on entend depuis quelques années dans la scène locale. C'est tiré de son plus récent album XO, une parution de 2016, une belle petite pop électronique francophone. On continue à Ça vaut le détour. On se tourne après un petit segment du côté de la capitale nationale. On se tourne maintenant vers Chaudière-Appalaches où je joins au téléphone Madame Renée Hébert, agente d'information et de liaison pour l'organisme L'Arc-en-Ciel. Bonjour Madame Hébert.
Bonjour.
Donc, on va commencer tout de suite. D'abord, on découvre aujourd'hui votre organisme. Parlez-nous de l'arc-en-ciel et de son volet autisme. Quelle est la distinction?
Tout d'abord, l'arc-en-ciel, en tant que tel, c'est un regroupement de parents et de personnes handicapées. C'est un organisme à but non lucratif qui offre des services de répit, d'hébergement, d'activités de jour pour les enfants puis les adultes handicapés, spécifiquement pour la région de Montmagny-Lillet. Donc, c'est une région qui est plus à l'est de Chaudière-Appalaches. Donc, on offre des formules souples là, aux familles naturelles et aussi aux familles d'accueil, donc du répit de jour, du répit de fin de semaine avec ou sans hébergement, du gardiennage, de la garde scolaire. Il y a un centre d'activité de jour aussi sur semaine et puis l'été, il y a un camp estival. Donc, l'arc-en-ciel intervient aussi également en défense de droits et puis l'organisme existe depuis 92. Pour ce qui est du volet autisme Chaudière-Appalaches, c'est un mandat qu'on a reçu du Centre intégré de santé et services sociaux, anciennement l'Agence de santé, dès la fin de 2011. Donc, ce mandat-là, il est vraiment étendu à toute la région Chaudière-Appalaches, puis il consiste à offrir des services d'information, de sensibilisation, de référence en autisme auprès des familles, des proches aidants, des organismes communautaires, des différentes ressources du réseau de la santé, des milieux de garde, du secteur de l'éducation également. Donc, on fait un peu toutes sortes de choses à travers ces services-là, dont de l'écoute, de l'orientation pour les familles. Quand les familles viennent de recevoir un diagnostic d'autisme, souvent, on a à les orienter vers les services publics ou les services communautaires ou privés. On anime des groupes de soutien pour les parents. Mm-hmm. On va organiser aussi des ateliers, des activités de formation pour les proches. Dans le fond, c'est beaucoup via ces activités-là qu'on va aller dans notre mandat d'information et de sensibilisation. Puis aussi, on tient un centre de documentation qui est accessible là, à toute personne qui est intéressée là, à en savoir davantage là, sur le trouble du spectre de l'autisme.
Justement, parlant de documentation, vous avez fait paraître en 2015 un guide intitulé « Troubles du spectre de l'autisme, guide d'information et de sensibilisation à l'intention des familles et des intervenants ». Ce guide, vous l'avez mis en place vous-même, c'était un besoin qu'on vous avait manifesté?
Oui, justement, ben oui, un besoin qui nous a été manifesté, mais qu'on s'est vite rendu compte dès qu'on a reçu le mandat en autisme pour la région. On a tout de suite constaté que dans le déploiement des services offerts aux familles, il y avait un trou de service, si on peut dire ça comme ça. C'est que quand la famille recevait le diagnostic pour leur enfant, cette famille-là se retrouvait sur une liste d'attente avec très, très peu d'informations, puis très démunie, hein, laissée à elle-même. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'autisme, c'est quoi? Elle savait à peine à quoi il devait faire face. Donc, nous, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être créer quelque chose, au moins pour venir pallier une partie de ce manque-là, parce qu'on n'a pas la prétention non plus de tout régler avec ce guide-là, mais au moins, on s'est dit, le parent, la famille va avoir un outil entre les mains pour dire, bon, ben là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Puis à travers ce guide d'information-là, dire, bon, ben là, voici ce qui s'offre à moi, puis comment je peux me mettre en action, justement, pour passer à travers ces étapes qui sont difficiles, là, il faut le dire, hein? Mm-hmm. Donc, c'est vraiment là, le point de départ qui nous a vraiment dit, bon, ben là, on y va avec ce projet-là, c'est vraiment important.
Et comment est-ce que le contenu du guide et des annexes a été choisi?
Ben en fait, étant donné que à travers les groupes de parents sur le territoire, aussi l'arc-en-ciel avait déjà quand même une certaine expérience avec les familles qui ont un enfant handicapé. Donc, à travers les groupes de parents, à travers le territoire aussi, on s'est abreuvé beaucoup de leur expérience à eux, de leurs difficultés. En se basant sur les difficultés d'une famille type, on a été à même de savoir, bon, mais quelle problématique qu'il faut faire ressortir pour donner des solutions au fur et à mesure que l'enfant grandit, à quelle problématique on peut faire face. Donc, on a commencé notre guide à le bâtir justement avec les problématiques, je parle de problématiques, mais c'est plutôt des étapes, là. Processus diagnostic, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le processus de diagnostic, à qui on s'adresse. Après le diagnostic, maintenant, qu'est-ce qui s'offre à nous. Donc, on étale justement toutes les possibilités au fur et à mesure sur la ligne du temps. Hein. Après ça, bon, l'entrée à l'école, comment qu'on procède? J'ai un enfant à besoin particulier, spécifique au niveau de l'autisme. Je peux-tu l'envoyer dans une école régulière? Toutes ces petites questions-là qu'on se pose, au moment où le parent reçoit le diagnostic, l'enfant a peut-être 3, 4, 5 ans. Et puis, c'est sûr que c'est une panoplie de questions qui nous viennent en tête. On n'a pas toutes les réponses et ça devient quand même un élément assez stressant pour le parent, la famille.
Tout à fait.
Donc, on voulait comme atténuer un peu en donnant des réponses, même si le parent n'était pas nécessairement rendu à cette étape-là de la vie avec son enfant. Juste de savoir, quand je vais être rendu là, je vais avoir telle possibilité. Donc, on voulait agir à ce niveau-là.
Et c'est aussi, ça vient confirmer en fait que ces questionnements, ils ne sont pas les seuls à les avoir. Ils sont partagés par d'autres familles.
Oui.
Madame Hébert, le guide s'adresse donc aux parents intervenants de Chaudière-Appalaches. Ils orientent vers les ressources de la région, mais comporte aussi des parties qui s'appliquent vraiment à toutes les familles qui vivent avec une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait éventuellement être adapté par d'autres organismes à travers le Québec?
Oui, oui, tout à fait. Mais justement, les différentes associations régionales, que ce soit en autisme ou d'autres associations pour personnes handicapées, la plupart ont tout un bottin de ressources régionales. Donc, c'est sûr et certain que notre guide, il y a quatre parties à travers ce guide-là. Donc, la première partie qui est un peu plus générale, qui présente la définition de l'autisme, dépistage, diagnostic. Bon, la deuxième partie, vraiment, plus les services, c'est sûr que ça peut s'adapter à la couleur régionale, hein, selon ce qui se présente dans chacune des régions. Mais la partie 3 porte sur les interventions, ça informe vraiment plus généralement qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention en autisme. Et la partie 4 traite de l'environnement familial et social. Puis encore là, quand on parle d'environnement familial et social, c'est pas nécessairement propre à une région ni à un handicap spécifiquement. Ça peut s'adapter à toutes sortes d'handicaps. Donc oui, c'est un guide nous, on n'avait pas l'intention nécessairement de dire aux autres régions prenez-le et faites-en ce que vous voulez, mais on s'est rendu compte vraiment que en le faisant que oui, c'était possible que d'autres régions puissent s'en inspirer, puis nous on est vraiment contents de ça. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui l'ont feuilleté attentivement puis qui se sont dit oui, il faudrait y aller pour faire quelque chose en ce sens-là dans notre région.
Mm-hmm.
Donc c'est merveilleux, pourquoi pas.
Oui, et Madame Hébert, il nous reste quelques secondes.
Oui.
Si on veut consulter ce guide ou avoir plus d'informations sur votre organisme, où est-ce qu'on va?
Bien, en fait, on a un beau site Internet au www.arc-en-ciel-rpph.com. C'est sûr qu'à partir de là, vous avez toute l'information. Vous pouvez aussi nous contacter par voie téléphonique hein, dans le 418-248-3055. Et puis, si c'est pour se procurer le guide, nous, on va se faire un plaisir de vous indiquer comment on peut procéder. On procède par envoi postal lorsque c'est hors de notre région. Donc, c'est sans problème qu'on peut vous le fournir. Il en reste encore des copies. D'ailleurs, on a fait une deuxième édition. Donc,
parfait.
Suffisamment.
On va inviter nos auditeurs à consulter votre site web. Merci beaucoup, Mme Renée Hébert. Vous êtes agente d'information et de liaison pour l'Arc-en-Ciel dans la région de Chaudière-Appalaches. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter avec @canal_m. Sur les réseaux sociaux, c'est où est-ce qu'on peut réagir aux propos de nos invités. Je crois que le prochain segment soulève de bonnes questions. J'en parlais en début d'émission de ce texte paru dans la section débat de la presse le 20 mars dernier, intitulé « Des centaines de femmes disparues du marché du travail ». J'ai au bout du téléphone l'auteur du texte, Madame Anouk Lanouette-Turgeon. Bonjour.
Bonjour.
Madame Lanouette-Turgeon, on va le mentionner pour le bénéfice de nos auditeurs aussi, vous faites aussi partie du mouvement « Parents jusqu'au bout ».
Oui.
Ce texte que vous avez publié il y a quelques jours, à l'intérieur, vous parlez du fait que lorsque un enfant lourdement handicapé requiert des soins importants, souvent l'un des deux parents abandonne son emploi et c'est presque toujours la mère qui cesse de travailler. Selon vous, c'est dû à quoi?
Ben, il y a sûrement vraiment plusieurs facteurs. J'ai pas moi-même fait de recherche approfondie sur le sujet, mais bon, ce que j'ai entendu autour de moi, ce que je vois, ce que j'entends le plus souvent, c'est C'est souvent que soit la mère, c'est elle déjà qui s'occupe le plus de l'enfant parce que souvent elle a pris un congé de maternité plus long, puis elle peut pas retourner travailler après le congé de maternité. Donc, par défaut, c'est comme elle qui s'occupe de l'enfant. C'est un choix aussi, là, mais bon, disons que c'en est un ou c'en est pas un. Il y a aussi dans certaines familles, c'est la femme qui va faire le salaire le moins élevé. Donc, après consultation entre les conjoints, on fait le choix que, bon, dans le fond, ça serait, puisqu'on doit se priver d'un salaire, c'est quand même... ça va avoir moins de conséquences néfastes si on se prive du salaire le plus faible. Cela dit, on en connaît quelques pères qui ont, eux, la charge de l'enfant handicapé à la maison. C'est pas...
C'est pas exclusif aux
mères. C'est pas la majorité des cas.
Et justement, ces deux éléments que vous soulevez qui sont quand même importants. La première chose à laquelle on pense, c'est la conséquence sur le revenu familial lorsqu'un des deux parents cesse de travailler.
Bien, c'est certain que c'est vraiment c'est des situations où les familles se retrouvent régulièrement étranglées là, au niveau financier parce que le conjoint, le père, c'est pas non plus facile d'avoir la charge, toute la charge financière quand faut savoir aussi que les dépenses augmentent quand on a un enfant handicapé, surtout lourdement. Ça coûte pas rien. Là. Oui, il y a des services dans le système public, mais bon, adapter un appartement ou un domicile, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Il y a des subventions, oui, qui vont couvrir à peu près le dixième là, des frais. Donc, il faut être conscient de ça, que c'est vraiment non seulement nos revenus baissent, mais les coûts augmentent. Donc, on a régulièrement, nous, des témoignages de parents qui ont... qui perdent leur maison, qui se séparent, parce que c'est... évidemment, c'est des situations difficiles psychologiquement aussi, là, mais si on considère juste strictement le niveau financier, là, ça donne des situations très problématiques.
Et c'est pas, on le mentionnait, il y a quand même des pères qui se retrouvent à la charge avec les enfants à charge. Mais pour la femme, c'est aussi, ça signifie parfois la fin d'une carrière. Ou même si on se retrouve avec une diminution des revenus et de l'autre côté des dépenses qui sont essentielles, qui augmentent, ça peut parfois aussi mener à la fin de la vie sociale, d'une certaine forme de vie sociale hors de la maison.
Oui, ben en fait, c'est ça aussi le plus lourd, moi, je trouve. Parce que, bon, moi, j'ai la chance, justement, comme je l'expliquais dans le texte que j'ai publié, mais j'ai la chance d'avoir pu conserver un emploi parce que j'ai un employeur compréhensif et que j'ai un conjoint qui a un horaire atypique aussi. Donc, on se relaie à la maison pour s'occuper des enfants. Mais il y a beaucoup de femmes, toutes jeunes, qui commençaient à peine leur carrière et qui vont devoir l'abandonner, qui pourront peut-être jamais retourner sur le marché du travail ou quand on s'absente... plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans du marché du travail, comme on peut pas revenir là facilement non plus. Donc, c'est un deuil vraiment important. Puis, c'est la vie professionnelle va aussi avec, justement, un ressourcement au niveau psychologique. Bon, tu sais, sortir de la maison, ça fait du bien à tout le monde. Là. Je connais personne pour qui ça serait... c'est la joie là, d'être toujours enfermé chez soi, là. Donc, c'est certain que les mères qui arrêtent de travailler, bon, dans certains cas, vont quand même réussir à maintenir un minimum de vie sociale, mais c'est sûr que le handicap de l'enfant affecte aussi cet aspect-là. Donc, c'est des familles qui sont souvent beaucoup dans l'isolement, qui sont... c'est ça, moi, je mets beaucoup l'importance sur le réseau. Il faut ne pas s'isoler, il faut faire l'effort de vraiment demander l'accès à toutes les ressources auxquelles on a droit, mais aussi ne pas... s'oublier complètement comme mère, comme femme, comme amie, comme sœur, ou bon, essayer de maintenir des liens en dehors, des activités en dehors de la maison, mais c'est pas facile.
Tout à fait. Et le travail aussi, dans ce cas-là, joue un rôle important dans votre équilibre, dans la santé mentale, dans l'estime personnelle, qui sont des aspects très importants de la vie à considérer. Vous le mentionniez, vous avez un emploi, vous êtes conseillère en emploi auprès des immigrants.
Oui.
C'est justement le hasard un peu du fait que votre conjoint a un horaire atypique qui vous permet de travailler, d'occuper un emploi. Ça prend par contre un employeur qui est compréhensif. Comment est-ce que ça a été reçu, du côté de l'employeur, de faire cette conciliation travail-famille qui est, ma foi, particulière?
Oui, en fait, parce que non seulement, bon, j'ai un emploi à temps partiel, j'ai gardé le même emploi que j'avais avant mes congés de maternité, mais autrefois je travaillais à temps plein et maintenant c'est 20 heures semaine seulement. Donc oui, j'ai un employeur extrêmement compréhensif. C'est exceptionnel peut-être, mais moi je considère que ça ne devrait pas l'être. Mm-hmm. Mais oui, c'est une situation où, bon, chaque entreprise ou chaque organisme est constitué différemment, mais nous, c'était possible, dans le fond. L'emploi que j'occupe, je partage mon bureau avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on a l'espace suffisant pour finalement que tout ça puisse se combiner, puis ça fonctionne. Mais effectivement, on a beaucoup de témoignages de beaucoup de parents qui perdent des emplois à répétition parce qu'ils doivent s'absenter régulièrement du travail de façon imprévue, parce que bon, il y a les suivis médicaux qui sont prévus, mais il y a aussi les hospitalisations fréquentes qui sont imprévues. Donc, puis moi, bon, j'ai la chance de pouvoir même, j'ai pas un horaire fixe. Tu sais, je fais 20 heures par semaine, mais mes heures sont pas tout le temps au même endroit parce que justement, j'ai des rendez-vous. J'ai deux enfants handicapés, donc j'ai des rendez-vous. J'ai un horaire très chargé. Donc, j'ai cette liberté là. Puis Ma directrice, justement, considère, elle, que c'est une forme d'accommodement raisonnable, au fond. Mm-hmm. Tu sais, elle m'a vraiment, parce que je l'ai remerciée récemment, justement, d'avoir, d'avoir cette compréhension-là. Puis elle me disait, ben tu sais, la diversité, ça doit pas être seulement ethnoculturel. Tu sais, parce que, bon, nous, on travaille avec les immigrants, donc on est dans cet esprit-là, là, de diversité. Elle dit, ça doit pas être seulement ethnoculturel. Elle dit, il faut, pour certaines personnes, donner des conditions qui vont leur permettre de s'épanouir, même si ce n'est pas des conditions typiques et des conditions rigides. Il faut avoir cette souplesse-là. Donc, c'est d'une beauté et d'une intelligence que je trouve remarquable.
Absolument.
Que je souhaiterais à plus d'employeurs. Mais c'est malheureusement pas le cas.
C'est pas encore le cas, mais bon, parents jusqu'au bout y travaillent aussi. Dans votre article, vous évoquez tout de même le fait que beaucoup de parents et beaucoup de mères développent des toutes sortes de compétences, toutes sortes de connaissances en sciences infirmières, en physiothérapie, en ergothérapie, en gastro-entérologie, en neurologie, en éducation spécialisée, du fait que vous accompagnez vos enfants justement dans le système de la santé. Ces connaissances-là, elles sont sous-estimées et bien entendu, elles ne sont pas rémunérées.
Non, tout à fait, parce que j'en parlais hier avec mon conjoint qui lui aussi là se sent en train de devenir infirmier là. C'est vraiment ça, c'est pas des compétences qu'on avait prévu acquérir, mais c'est réel là. Tu sais, quand tu fais, tu sors de la machine à succion sur ton enfant, de machine à oxygène, que tu fais du clapping, que tu donnes des gavages, qu'on appelle aussi en langage plus scientifique l'alimentation entérale. Mm-hmm. Bon, j'aime pas vraiment le mot gavage, c'est un peu, on voit une noix se faire gaver, là, mais bon.
Ouais, c'est un peu brusque.
Oui, mais c'est quand même le mot qui est utilisé partout dans le système de santé. Bref, c'est des soins vraiment complexes. Puis c'est des compétences réelles, là. Tu sais, c'est pas, c'est sûr qu'on ne devient pas neurologue, là. On n'a quand même pas l'équivalent d'un doctorat, mais je veux dire, en termes pratiques, en termes de compétences là, techniques ou en tout cas de soins à prodiguer, on est minimum infirmière auxiliaire, là, je dirais. Là. Mm-hmm. En tout cas, bref, bien, on est multitâche, là, c'est sûr, parce qu'il faut faire de la stimulation, il faut faire les exercices de physiothérapie, justement, ergothérapie, stimulation du langage pour les enfants qui sont rendus là, bon. Donc, c'est des tonnes de connaissances puis de compétences vraiment qui sont absolument, qui passent en dessous du radar, là, qui n'existent pas, qui sont pas reconnues d'aucune façon. Donc, nous, en fait, on ne demande pas un salaire comme tel parce que ce serait bizarre d'avoir un salaire pour pour s'occuper de nos enfants, mais en fait, on veut un soutien financier qui serait équivalent à ce que les familles d'accueil peuvent recevoir pour des enfants qui ont des soins complexes à recevoir.
Justement, oui, ben parce que parents jusqu'au bout pour objectif de donner rapidement l'accessibilité à une aide financière aux familles avec des enfants lourdement handicapés. On a vu récemment la présence du mouvement à l'émission Tout le monde en parle, entre autres. Il y a eu certains engagements qui ont été amenés et des démarches auprès des ministres Charbonneau et Barrette. Quels sont justement ces principaux objectifs? Qu'est-ce que vous demandez pour vous soutenir?
Bien, en fait, nous, initialement, on demandait la création d'un régime parental pour enfants lourdement handicapés, un peu sur le modèle du régime parental de paternité-maternité, là, mm-hmm. pour les congés parentaux. On s'est vite fait répondre que de créer quelque chose de complètement nouveau, ça serait vraiment long, ça serait vraiment compliqué. Donc, on nous a proposé de plutôt se greffer à une structure déjà existante. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a découvert l'existence des familles d'accueil de proximité, en fait, plus précisément. C'est-à-dire que si, par exemple, un enfant ne peut plus être dans sa famille, on va vérifier autour de lui s'il y a un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère qui peut le prendre, donc quelqu'un qui est déjà... que l'enfant connaît déjà, qui est dans sa famille proche. Mm-hmm. Et donc, ces familles d'accueil de proximité reçoivent une rémunération, reçoivent un soutien financier pour s'occuper de l'enfant. C'est modulable selon le niveau de soins qui est requis par l'enfant. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'être accepté comme famille d'accueil de proximité. Il n'y a pas plus proche que la famille directement naturelle d'un enfant, évidemment. Mm-hmm. Ou un soutien équivalent. T'sais. C'est pas obligé d'être ce programme-là auquel on se greffe. On est ouverte à la discussion et à d'autres possibilités, mais nous, disons, c'est ça qu'on propose. Et on demande aussi l'ajustement parce qu'au niveau provincial, on reçoit un supplément d'allocation familiale quand on a un enfant handicapé, mais c'est un mini-supplément qui n'est pas du tout ajusté en fonction de la lourdeur du handicap ni du revenu familial. Donc, c'est un peu absurde. On demande aussi donc l'ajustement de cette prestation-là, précisément. Là. Mais puis la reconnaissance comme famille d'accueil de proximité, ça nous permettrait aussi d'avoir accès, par exemple, au transport ambulancier sans frais. Parce que il faut considérer qu'il y a dans les enfants très handicapés ou à besoins complexes, il y en a beaucoup qui doivent se rendre régulièrement à l'hôpital de façon urgente, puis on peut pas. On peut pas ne pas appeler l'ambulance quand c'est urgent, là. Ça serait irresponsable. Mais il y a des enfants qui prennent l'ambulance 3-4 fois par mois, là. Ça coûte 130 et 200 quelques dollars à chaque fois. C'est impossible pour les familles de payer ça, de maintenir le rythme de ces frais-là. C'est exorbitant. C'est ça. Disons, le statut de famille d'accueil donne accès à plusieurs exemptions de certains frais. Donc, si on ne l'obtient pas par le statut de famille d'accueil, on veut l'obtenir de toute façon parce que, justement, on a un fardeau énorme déjà psychologique, puis on se dit vraiment qu'au moins si le fardeau financier pouvait être un peu allégé, ça serait beaucoup plus respirable.
Tout à fait. Donc, dans certains cas, ça ne permettrait peut-être pas que les femmes reviennent toutes sur le marché du travail, mais au moins elles auraient un soutien financier et qui reconnaîtrait aussi leur implication, leur travail qui est du travail invisible. On va en parler dans une émission la semaine prochaine de cette importance du travail invisible, notamment auprès des enfants handicapés. Ouais. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Madame Annick Lanouette-Turgeon. Je rappelle que c'est grâce à votre article « Des centaines de femmes disparues du marché du travail » paru dans la presse le 20 mars dernier que vous nous avez ouvert les yeux sur une certaine réalité des familles avec des enfants lourdement handicapés. Merci beaucoup et on va se tenir au courant de ce qui se passe avec Parents jusqu'au bout.
Merci à vous.
Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de si
pas de chance ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Françoise Hardy, Comment te dire adieu, tiré de l'album du même nom, un succès souvenir de 1968. On est dans ce dernier segment de Ça vaut le détour. J'accueille en studio Madame Pierrette Gagné, directrice du Centre de référence du Grand Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Donc, dans notre émission du 17 février, on avait déjà présenté le Centre de référence du Grand Montréal qui donne de l'information sur les ressources sociales et communautaires dans la région métropolitaine, qui oriente vers les bons organismes toute personne qui cherche des réponses à ses besoins, sécurité sociale, santé, travail, bien-être et loisirs. On couvre un large spectre de services. Aujourd'hui, on va se pencher plus précisément sur vos lignes de téléphoniques spécialisées. Vous en avez trois. Il y en a deux qui sont des lignes d'info référence, qui sont drogue, aide et référence et jeux, aide et référence. Mais aujourd'hui, on va parler de référence aînée.
Oui. Alors, référence aînée, c'est en fait ce que vous venez de décrire, c'est le même service qu'on donne, mais vraiment spécialisé pour les personnes aînées. Donc, on simplifie l'information, on s'assure que ça soit clair. L'objectif d'avoir une ligne spécialisée, c'est bien sûr, on considère que les personnes aînées qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de services gouvernementaux, de programmes, sont facilement perdues dans le labyrinthe de tous ces services et programmes et ont besoin de parler à une voix humaine et non pas de se promener d'un numéro de téléphone à un autre et au risque d'être confuse, d'être perdue. Alors, nous, on accueille leurs demandes, on comprend bien leurs besoins et à partir de ça, on les oriente vers la ressource pertinente selon ce qu'elles nous ont exprimé. Et il y a un effet indirect aussi à ça, c'est qu'on brise l'isolement des personnes aînées qui se sentent des fois seules chez elles en train d'essayer de régler une situation. Alors, c'est ça l'objectif de cette ligne spécialisée.
Madame Gagné, il y a beaucoup d'organismes qui mettent de plus en plus d'informations, de guides à l'intention de différentes clientèles sur leur site Internet. Vous trouviez que c'était la ligne téléphonique qui rejoignait le plus cette clientèle aînée?
Oui, en fait, on fait deux choses. Premièrement, la ligne référence aînée existe depuis 13 ans et on vient d'avoir une subvention gouvernementale importante du ministère de la famille, en fait, du secrétariat aux aînés, pour prolonger les heures de service de cette ligne téléphonique, mais aussi pour mettre en ligne, donc sur un site Internet convivial, les ressources destinées aux personnes aînées. Et les utilisateurs de ce site-là sont bien sûr les intervenants sociaux, les professionnels de la santé ou encore les proches aidants. Oui, il y a des aînés qui, n'étant pas en situation de crise ou difficile, vont aller aussi sur ce site-là, à condition qu'ils sachent très bien quel est le besoin précis qu'elles ont et quelle est la ressource pour y répondre. Une fois ça, ben, tu sais, on voit nos aînés avec des tablettes, avec des téléphones intelligents.
Tout à
Alors,
fait.
Bien sûr qu'ils peuvent elles-mêmes, ces personnes-là, aller sur le site Internet, mais il reste quand même une importante clientèle qui a besoin d'abord de se faire orienter vers une première ressource avant de pouvoir faire ces démarches-là.
Justement, il faut d'abord identifier le besoin. Quel type de demandes vous sont souvent acheminées de la part des personnes aînées? On va le dire, c'est à partir de 50 ans et plus qu'on peut faire appel à l'aide.
Au ministère de la Famille, c'est à partir de 50 ans et plus. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent dire que c'est 65, mais quand même, nous, chez nous, 50 ans et plus, c'est 40 % des appels qu'on reçoit. Donc, il y a toutes sortes de demandes. Il y a des demandes qui sont liées à des périodes de l'année, comme en ce moment, on a beaucoup de demandes pour les cliniques d'impôts, pour les déménagements, l'aide au déménagement, pour donner du mobilier, des gens qui cassent maison, comme on dit. Il y a aussi, durant toute l'année, des gens qui ont besoin d'aide suite à un deuil, pour avoir un groupe d'entraide, qui ont besoin d'aide alimentaire. On avait la semaine dernière une personne aînée qui était malade, qui était avec son mari plus âgé d'elle et encore en une situation de perte d'autonomie importante et qui cherchait à avoir de l'aide de la popote roulante et qui n'arrivait pas à faire le contact. C'est nous qui avons fait le contact pour elle pour qu'elle puisse bénéficier de ce service-là. Donc, ça peut être dans des périodes de crise, ça peut être dans des moments saisonniers, mais il y a toutes sortes de... Ça peut être du logement, du transport. Écoutez, je pourrais vous en donner autant qu'il y a de rubriques dans notre banque de données.
Et autant qu'il y a d'usagers, finalement, de cette ligne. Les besoins sont très différents. Cette ligne téléphonique est maintenant disponible 7 jours sur 7, incluant dans les congés fériés. Vous avez... c'est tout récent, ça. C'est depuis le début du mois.
En fait, on a eu la confirmation officielle du ministère de la Famille qu'on avait cette subvention pour extensionner les heures de service et mettre la banque de données en ligne et aller vers éventuellement un service encore plus accessible. Donc, on a pris quelques semaines pour faire le changement d'horaire et le service a été effectif au milieu janvier, mais on a commencé à l'annoncer parce que on a voulu le tester, être vraiment prêt à en faire la promotion, effectivement, au début du mois.
Et on parle aussi dans cette annonce de l'inforéférence 211.
Oui, en fait,
ces chiffres.
C'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées au centre de référence, de bonnes nouvelles, au début du mois de mars. C'est que... il y a quelques années, il y a 3 ans, en fait, la table de concertation des aînés de Laval m'avait approché pour me dire, nous, on voudrait qu'il y ait un service 211 pour nos aînés et tout ça. Et ça permet, nous, on poursuit le but de rendre disponible pour tous les citoyens du Grand Montréal un service 211. Ça veut dire 3 chiffres, 211, facile à retenir et à composer pour nous atteindre et qu'on soit disponible aussi 70 heures semaine et éventuellement 24 heures sur 7. Et cette fois-là, c'est la Ville de Laval, la première qui a pris le leadership et qui a rendu disponible le service 211 sur son territoire. Et ça va servir à tous les citoyens, mais c'est une demande qui vient d'un groupe d'aînés de Laval. Donc, dans un premier temps, la banque de données va être disponible quelque part ce printemps. On est en train de finaliser tout ça. À l'automne, le 211 va être disponible pour le territoire de Laval. Pendant ce temps-là, on poursuit notre périple pour que l'ensemble des municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal aient le service 211. Mais en attendant, notre ligne, si on parle des aînés, référence aînés, 527-007, est disponible pour les aînés qui appellent de 8h à 18h, 7 jours sur 7.
Justement, le 514-527-0007. On parle que ça fait quelques mois que ces heures sont rallongées, sont disponibles. Avez-vous remarqué une augmentation des appels, une augmentation des demandes?
On a surtout remarqué que quand on arrivait le lundi au bureau, il y avait des appels qui étaient en attente, qui étaient sur la boîte vocale. Bien là, ces gens-là sont répondus la fin de semaine. Et c'est sûr qu'avec la promotion qu'on fait, il y a eu des articles qui sont parus, vous les avez vus, dans les journaux. Il y a une campagne qui va se faire dans des publications spécialisées. Ça fait en sorte que les gens... Ils essaient, puis ils sont agréablement surpris de voir qu'il y a une voix humaine au bout du fil le samedi après-midi ou le dimanche de Pâques. Donc, il y a une augmentation, mais elle va être encore plus forte dans les prochaines semaines avec l'effet de la promotion.
On vous souhaite vraiment un bon succès. Merci beaucoup d'être présent pour nos aînés, mais aussi pour toute la population. Vous êtes Pierrette Gagné, vous êtes directrice du Centre de référence du Grand Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Et alors, c'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui à Ça vaut le détour, dernière émission de la semaine. Je remercie mes invités, Pierrette Gagné, Mme Anouk Lanouette-Turgeon, Mme Renée Hébert, et on avait commencé l'émission avec M. Denis Savard du Centre de vacances Cité Joie de Beauport. Je remercie mon équipe technique à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. Je prends quelques secondes pour vous dire qu'on éprouve actuellement des difficultés avec le site web de Canal M, mais on travaille à ce que toutes les émissions soient disponibles très rapidement. Suivez nos médias sociaux. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.